I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bah alors, qu'est-ce que vous avez?
Des clous.
Ben justement, c'est...
Non, je dis des clous parce qu'il n'y a rien ici, il n'y a rien. Vous avez pas vu le nom du magasin, là?
Non, non.
Bon, ben tenez, venez voir.
Ici, c'est pas la Samaritaine. Ah, je comprends maintenant. C'est à la Samaritaine qu'on trouve tout.
Si j'osais, je dirais que Twitch, c'est un peu la Samaritaine du web. On y trouve de tout. Des cours de maths, du lycée Bellevue, des vues de canard, un atelier pour le travail du cuir pour les bourses celtiques bretonnes et même la météo japonaise ou des conseils pour le massage des oreilles en direct. Mais globalement, tout le monde ne s'y retrouve pas pour des clous, mais plutôt pour les jeux vidéo. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos, et on va revenir sur le parcours d'un enfant du web qui s'est construit une place à part sur Internet. C'est sans doute une question de génération. J'ai grandi en même temps que les jeux vidéo et j'y ai consacré pas mal de temps. Trop, dirait ma femme d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, j'ai toujours préféré le jeu en solitaire et j'ai jamais éprouvé le besoin de regarder d'autres joueurs en train de s'amuser par écran interposé. Bref, je ne suis pas vraiment Twitch. Une question de génération, disais-je. Mais je suis quand même fasciné par le poids pris en quelques années par cette plateforme devenue une filiale d'Amazon. Isabelle Lesniak vient de consacrer un long article pour les Échos Weekend à Twitch, qui fête ses 10 ans. Dans le monde de la tech, ce n'est déjà plus l'adolescence. Bonjour Isabelle.
Bonjour Pierrick.
Twitch, en quelques années, c'est devenu un groupe incontournable de la tech américaine.
C'est un acteur avec lequel il faut compter. En fait, la plateforme va fêter ses 10 ans le 6 juin. Donc au départ, c'était une plateforme qui s'est développée dans le gaming. Actuellement, elle archidomine ce segment en fait de la diffusion en live des parties de jeux vidéo qui était son cœur de métier. Elle écrase largement les concurrents YouTube Gaming et Facebook Gaming. Mais récemment, elle s'est diversifiée. En fait, les dirigeants se sont aperçus que le jeu vidéo concernait quand même beaucoup moins de gens que la vie et qu'il y avait une demande pour des émissions, notamment de discussion. Et donc, l'accent a été mis sur, en fait, trois nouveaux secteurs, la musique, le sport et les talk shows, qui sont vraiment très développés, notamment à la faveur du confinement. Donc, tout ça fait que c'est un acteur qui compte. En même temps, il faut resituer les choses, par exemple, comparé à YouTube. Alors, les experts extérieurs, puisque, en fait, Twitch appartient à Amazon et donc les chiffres sur les comptes sont toujours assez secrets, mais les experts extérieurs disent que Twitch aurait réalisé en 2019, avant donc la pandémie, 1,5 milliard de dollars de chiffre d'affaires, alors que pour YouTube, très officiellement, c'était 15 milliards, donc Twitch serait 10 fois plus petit en chiffre d'affaires que YouTube.
Quel est le principe de Twitch ?
Alors en fait, quel que soit le sujet, c'est-à-dire que ce soit des émissions de gaming ou d'autres thèmes, il s'agit de diffuser en live des streams qui durent souvent très longtemps. Alors ça peut être plusieurs heures, jusqu'à 8 heures pour une partie de vidéo, avec une chose très importante pour la communauté, comme on appelle les fans des streamers, c'est la possibilité d'interagir via un chat. Alors, quand on regarde en novice une chaîne Twitch, et la première fois, on est assez étonné. Sur la colonne de droite, il y a ce chat qui est vraiment bourré d'émojis. En fait, chaque streamer a ses propres émoticônes et ça lui permet d'interagir avec sa communauté. Alors, c'est assez compliqué pour les streamers d'assurer un live qui se passe bien parce que non seulement on diffuse son contenu, mais on doit aussi constamment regarder les réactions des spectateurs. On les salue, on les remercie, on répond à leurs questions, on fait des blagues. En fait, une énorme partie du temps est consacrée à gérer cette relation de proximité. C'est ce qui fait la différence avec YouTube où ce sont des vidéos qui sont éditées, montées, où il n'y a pas cette interactivité.
Comment est né Twitch ?
Alors au départ, le service s'appelait Justin TV. Il est né en 2006. C'est Justin Kahn, qui était un entrepreneur américain du net, basé à San Francisco, qui a cofondé donc ce Justin TV avec trois associés. C'est une plateforme qui avait initié ce qu'on avait appelé le live casting. Alors c'est une sorte de télé-réalité, mais renouvelée et mise aux normes numériques digitales. En fait, Justin Kahn se baladait à San Francisco avec une caméra sur la tête. Il se filmait en fait dans toutes ses actions les plus quotidiennes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans éditer ses émissions. Et donc c'était lui au naturel dans sa vie assez banale. Donc au départ, Justin TV n'était pas du gaming, mais on s'est aperçu au bout d'un moment que les parties de jeux vidéo commentées étaient celles qui avaient le plus de succès. Et donc a été décidée en 2011 la création de Twitch pour se concentrer sur le gaming. Finalement, Justin TV a périclité, ça n'existe plus aujourd'hui, alors que Twitch connaît une grande croissance.
Comment expliquer un tel succès aussi rapide, Isabelle ?
En fait, les contenus étaient vraiment très différents de ce qu'on pouvait voir jusque-là. Et puis, il y a un élément de surprise. En fait, comme les vidéos ne sont pas éditées et c'est la vie des gens au naturel qu'on suit, ça permet des moments qui sont complètement improbables. Donc, quand on regarde ça, quelquefois, moi, j'ai trouvé ça un peu amateur. Mais en fait, c'est ce que les fans aiment. Par exemple, s'il y a un bug informatique, on demande à la communauté de réagir. Un petit coup de main sur un service informatique, et ça, on voit ça en direct. S'il y a un streamer qui doit interrompre sa diffusion pour aller chercher un paquet Amazon, il le fait. Il y avait pendant le premier confinement une scène qui est restée un peu célèbre. En fait, la petite amie du pilote de Formule 1, Charles Leclerc, s'est retrouvée dehors en bas de chez eux sans les clés, et elle a dû s'abonner à la chaîne de Charles Leclerc pour lui dire « je suis dehors, viens m'ouvrir », et tout ça, ça a été évidemment filmé et diffusé en direct, et en fait les gens raffolent du côté naturel de ce genre de scène totalement improbable.
So my girlfriend had to subscribe to my Twitch channel to tell me that I had to open the door. So I gained a subscription. So happy.
Et un suiveur de plus, ça en fait maintenant 649 600 pour le pilote de Formule 1. Twitch, c'est 1000 milliards de minutes de contenu déjà regardé, 30 millions de visiteurs par jour venus de 230 pays, dont un quart a entre 13 et 17 ans, et la moitié entre 18 et 34 ans. Isabelle, l'un des tournants pour le site, ça a été son rachat par Amazon en 2014 pour près d'un milliard de dollars.
Oui, c'est ça, 970 millions de dollars. En fait, en 2014, il y a plusieurs GAFA qui se rendent compte que Twitch marche très bien. Certains mois, en fait, Twitch dépasse Facebook en consommation de bande passante aux États-Unis. Donc évidemment, Google, Amazon voient ça et se disent que c'est potentiellement une plateforme qui pourrait racheter. Amazon, finalement, remporte la mise. Pourquoi Amazon ? Bon, bah, tout d'abord, parce que Amazon avait beaucoup d'argent, mais c'est pas la seule raison. En fait, Twitch était assez complémentaire de ses autres activités. Amazon avait déjà Amazon Music et elle voulait diversifier ses contenus, donc Twitch était bienvenu. Et puis, il y avait quelques arguments qui plaidaient en sa faveur. Amazon avait déjà une solution de stockage, le Amazon Web Services, qui était déjà beaucoup utilisé par les streamers de Twitch. Donc ça plaidait en sa faveur. Et puis, elle avait déjà racheté des développeurs de jeux vidéo. Donc, elle avait une certaine expérience en la matière.
Ouais, c'est ce qui avait vraiment poussé Amazon à mettre autant d'argent sur cette plateforme ?
Oui, c'est donc toutes ces possibilités. Et puis aussi, la nécessité et la possibilité d'avoir des synergies avec finalement les services d'Amazon, donc la pub est mutualisée. Il y a aussi, notamment pendant le confinement, un service qui a été lancé, ça s'appelle les Watch Parties. Donc on regarde ensemble à distance les contenus Twitch, les contenus qui sont tirés du catalogue d'Amazon. Donc évidemment, il y a une synergie qui marche très bien. Et puis pour les abonnés Prime d'Amazon, on a la possibilité en fait de s'abonner pendant un mois gratuitement à une chaîne de Twitch, ce qui permet d'augmenter la notoriété de Twitch auprès des nombreux abonnés Prime partout dans le monde.
Un milliard de dollars pour racheter Twitch en 2014. Le site vaut vraisemblablement beaucoup plus aujourd'hui. Une bonne opération pour Amazon. Son fondateur, Justin Kahn, regrette-t-il d'avoir vendu trop tôt ? Il répond à cette question d'un internaute avec un large sourire qui illumine son visage.
We thought that was an insane amount. But now, reportedly, Twitch is worth 15 to 20 billion, proving that things can always be bigger than you think.
Voilà ce qu'il dit. on pensait que 970 millions, c'est une somme dingue. Aujourd'hui, ça vaut beaucoup plus d'argent, la preuve que la folie est plus importante qu'on ne le pense. Avant d'ajouter que rien à l'époque ne laissait penser que Twitch connaîtrait un tel succès, et il ajoute encore
« Having the win from selling Twitch helped me realize that having more money in the bank is not necessarily going to make me any happier. »
Vendre ma participation dans Twitch m'a permis de comprendre qu'avoir de plus en plus d'argent sur mon compte en banque ne me rendait pas plus heureux. Isabelle, la plateforme Twitch reste gratuite, elle est rentable pour Amazon ?
Alors ça, on le sait pas officiellement, puisque donc ça fait partie de la stratégie top secrète d'Amazon. On peut penser, avec des estimations extérieures, qu'il est près de la rentabilité ou qu'il a dépassé son seuil de rentabilité. En fait, en 2019, les experts extérieurs avaient estimé que à 300 millions de dollars près de revenus publicitaires, qui n'étaient pas tout à fait au niveau des objectifs, il aurait été rentable. Et évidemment, avec l'effet Covid et l'effet pandémie, sans doute ça a bien arrangé les comptes. Alors en interne, la CEO qui est basée à San Francisco, qui s'appelle Sarah Clements, a accepté de me dire que les revenus publicitaires avaient augmenté en proportion de l'audience. L'audience a été multipliée par deux en 2020, donc on peut s'imaginer que les revenus publicitaires désormais sont assez conséquents. En fait, l'audience moyenne actuellement post-pandémie, il y a eu un pic évidemment en mars-avril, ça s'est un peu tassé, mais quand même, l'audience moyenne dépasse les 30 millions de visiteurs chaque jour dans 230 pays. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est une audience jeune, moins de 34 ans majoritairement. Donc, les marques sont très intéressées. Porsche, Burberry, Kellogg's sont très en demande de partenariat avec Twitch. Et évidemment, ça arrange aussi les comptes de l'entreprise.
Oui, c'est bon pour les comptes de l'entreprise. Mais est-ce qu'il est aussi rentable pour les streamers, c'est-à-dire les éditeurs de contenu?
Ça dépend lesquels, en fait. Donc, pour bien monétiser son audience sur Twitch, il faut avoir le statut, le grade ultime de partenaires, et certains de ces partenaires sont bien lotis. Alors on pense évidemment à la star de Twitch, la star absolue, le gamer Ninja. Lui, il gagne plus d'un million de dollars par mois en pub et partenariat, mais c'est pas la totalité des streamers qui sont concernés. En fait, il y a plus de 7 millions de personnes qui streament en live chaque mois, et la grande majorité n'en vivent pas. Pendant la pandémie, il y a pas mal de gens qui se sont lancés sur Twitch, alors pour des raisons financières ou par désœuvrement. Donc il y a eu 13 millions de créateurs, en fait, qui sont arrivés sur Twitch, mais l'immense majorité ont des chaînes qui ne sont regardées que par 5 personnes ou moins. Donc, évidemment, c'est plus un passe-temps qu'une rémunération. J'ai pu discuter avec un chercheur qui avait beaucoup travaillé sur Twitch en 2017-2018. Il s'appelle Samuel Coavou, il est chercheur à Orange Labs. Donc, à l'époque, il avait fait pas mal d'interviews avec des streamers français très connus, et il disait que la plupart ont lui avait dit qu'il gagnait entre 400 euros et 2000 euros par mois. C'est pas énorme puisque ce sont des auto-entrepreneurs, donc ils doivent payer leurs charges et d'un mois sur l'autre, leurs revenus sont très instables.
On trouve de tout sur Twitch, je le disais, y compris des amateurs de canards sur la chaîne Dash Ducks. On était quand même 1580 à scruter la mare. On trouve aussi sur Twitch un lecteur de canards, un certain Samuel Etienne.
Vous êtes dans la matinée, Étienne. J'ai vu que pour certains, c'était une grande première. Donc, le concept, il est tout simple. On lit les journaux ensemble, à la cool, les journaux du matin, les magazines aussi un petit peu, la presse nationale, la presse en région aussi, parce qu'on a une belle presse régionale en France. Et puis, on en parle ensemble, et on en parle, et on parle de la vie aussi, parce que l'actualité, c'est la vie aussi.
Oui, alors ça, c'est une grosse surprise, parce qu'on ne l'attendait pas, sans doute, sur Twitch. Donc, le présentateur de France 3, France 3, c'est pas la chaîne la plus jeune du PAF. En plus, donc, il est présentateur de questions pour un champion qui n'est pas trop regardé par les jeunes qui trouvent ça un peu ringard. Donc, c'était quand même un sacré pari pour lui de se lancer sur Twitch à la conquête d'une audience jeune. Et ça a vraiment marché au-delà de toute attente, puisque en quelques mois de diffusion, il a finalement fidélisé près de 400 000 followers. Et ça, avec quelques émissions politiques où il a eu des invités prestigieux qui lui ont fait du buzz, mais aussi et surtout par un exercice quotidien qui est la revue de presse, donc qui n'est pas non plus un exercice totalement révolutionnaire. En fait, un peu la clé de son succès, selon toutes les personnes à qui j'ai pu parler et qui sont quelquefois des personnes qui étaient très établies sur Twitch et qui regardent pas forcément avec un bon œil les gens qui arrivent maintenant, même pour eux, la clé du succès de Samuel Etienne, c'est que il a beaucoup regardé, il s'est beaucoup préparé avant de lancer sa chaîne. Donc, il a notamment pris les conseils et il a participé aux émissions d'un streamer très connu qui s'appelle Étoile, qui anime des Nuits de la Culture. Donc Samuel Etienne a été régulièrement invité dans ces Nuits de la Culture. Ensuite, il a participé à des événements un peu fondateurs de Twitch comme The Event. Ça lui a permis d'apprendre les codes, de maîtriser le langage de Twitch. Et donc, quand il a lancé sa propre chaîne, il était tout à fait prêt, ce que ne sont pas la plupart des gens qui arrivent actuellement et qui n'ont pas un passé de gamer.
C'était une initiative personnelle et originale, hors de son poste à France Télévisions. Est-ce qu'il a été surpris par le succès auprès des jeunes, notamment ?
Oui, totalement. Et en fait, un des avantages de Twitch, c'est qu'on peut faire des petits sondages, enfin, tester sa communauté. Donc, on connaît assez bien, finalement, son audience. Et donc, il a vu que 87% de son audience est âgée de 18 à 35 ans. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'était des gens qui n'avaient pas l'habitude de lire les journaux, qui trouvaient notamment, par exemple, la lecture du Monde très intimidante. Et en fait, grâce à cette diffusion, donc son émission s'appelle La Matinée Étienne, Étienne en deux mots, ça les a réhabitués en fait à l'exercice quotidien d'une lecture de la presse. Certains ont été achetés des journaux pour la première fois, donc évidemment c'est très satisfaisant pour un journaliste d'avoir touché une cible qui était finalement novice en la matière.
Samuel Étienne a fait l'événement en recevant des personnalités politiques de premier plan, vous le disiez, hein, il y a eu François Hollande dont on a beaucoup parlé, puis Jean Castex. Twitch va devenir un lieu d'expression pour les politiques ?
Oui, alors on l'a bien vu récemment avec les challenges qui n'étaient pas sur Twitch, mais de Macron avec McFly et Carlito. En fait, tous les hommes politiques cherchent à s'approcher de cette audience de jeunes qui ne va pas trop voter, mais qui pourrait faire la différence quand il y a des scrutins très serrés. Et donc, Twitch, évidemment, est un instrument de rêve, puisqu'il a une base jeune, engagée, très enthousiaste. Donc, c'est potentiellement très intéressant. Et puis, tout le monde fantasme un peu sur un exemple très réussi. Donc, c'est celui de AOC, Alexandria Ocasio-Cortez, la jeune représentante au Congrès. En fait, quelques jours avant ce scrutin vraiment très important présidentiel et législatif aux États-Unis, elle a en octobre joué à Among Us avec quelques streamers et elle a fait la troisième audience, la meilleure de l'histoire de Twitch. Donc, après avoir joué, elle a incité les jeunes à aller voter et évidemment, tout le monde essaye de reproduire cet exemple.
Hasta la vista, baby. Samuel Etienne fait une pause depuis deux mois maintenant sur Twitch. Il vous l'a dit, Isabelle, il n'est pas de Terminator. En espérant qu'il reviendra vite pour cette revue de presse, Twitch, c'est aussi un réseau social. Ça peut être violent dans les commentaires ?
Jusque-là, moins violent que, par exemple, sur Twitter. En fait, il y a eu des instruments de modération depuis le début qui ont pas mal joué dans le sens d'une modération. Donc, la CEO, Sarah Clements, m'expliquait que, en fait, Twitch n'avait jamais voulu être un espace de liberté d'expression. Donc, c'est assez paradoxal, mais c'est vrai que depuis le début, il y a des règles de bonne conduite très strictes qui sont imposés aux utilisateurs, une tolérance zéro pour les discours haineux ou harcèlement. Samuel Etienne m'a expliqué comment ça marchait concrètement pour sa chaîne. Alors, il y a deux modérateurs, en fait, qui sont en continu pendant ses revues de presse et cinq pendant les émissions politiques qui sont potentiellement plus polémiques. Donc, ces modérateurs, qui sont des bénévoles, ont la main sur son chat et c'est eux qui réagissent si jamais il y a un problème, si tout à coup, dans le chat, on voit des propos racistes, sexistes, enfin impropres. Donc, ils peuvent décider de supprimer le message, de geler le compte pendant 30 secondes à 5 minutes ou de bannir définitivement le compte avec la possibilité donc pour le streamer de faire appel. Et donc tout ça, ça a garanti jusque très récemment une certaine bienveillance. C'est le mot qui revient souvent chez les streamers. Ils ont apprécié la bienveillance de leur communauté sur Twitch. En revanche, évidemment, avec la popularité nouvelle du site et la diffusion notamment d'émissions politiques, ça risque de pas rester. On a déjà vu en fait quelques cas de talk show aux États-Unis qui avaient été noyautés par des groupes d'extrême droite, un peu sur le modèle de ce qui se passe sur Facebook.
Twitch et le politique. La campagne se jouera-t-elle aussi sur l'un des réseaux favoris des jeunes, pas tous d'ailleurs en âge de voter ? Sur les conseils d'Isabelle, j'ai contacté Denis Masseglia. Il a 40 ans, il a été élu député LREM du Maine-et-Loire. C'est le président du groupe d'études jeux vidéo et e-sport à l'Assemblée nationale. Bonjour Denis Masseglia.
Bonjour.
Alors d'abord, comment est-ce que vous avez découvert Twitch ?
Alors comment j'ai découvert Twitch ? Tout simplement en discutant avec les personnes avec lesquelles je joue aux jeux vidéo. Tout simplement, c'était une plateforme, un outil où on se disait « Est-ce que tu as vu cette partie-là ? Est-ce que tu as vu tel et tel influenceur parler ?» Voilà comment je l'ai découvert, tout simplement dans ma vie au quotidien.
Oui, on comprend bien que vous êtes un amateur de jeux vidéo. Hein.
En effet, depuis tout jeune, je joue aux jeux vidéo, d'ailleurs comme la plupart des filles et des garçons de ma génération. Et donc, j'ai grandi avec. Et quelque part, Twitch a été un outil de consommation dans un premier temps, avant de devenir un outil qui m'a permis de faire de la construction, de la diffusion et de créer du contenu.
Qu'est-ce qui vous plaît sur cette plateforme ?
Ce que j'aime beaucoup sur cette plateforme, c'est l'interaction entre, d'un côté, l'influenceur et de l'autre côté les différentes personnes qui sont présentes qu'on appelle viewers. Et cette interaction, ces échanges directs sans qu'il y ait de filtre sont d'une richesse qui me semble être extrêmement importante. Et cette fluidité dans les échanges permet aussi d'éviter les langues de bois, le fait qu'on se retrouve dans des échanges qui manquent de dynamique sur d'autres types de médias.
Je vous remercie d'être ce soir avec moi pour travailler, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais du moins pour construire, pour faire la loi.
Vous êtes sur Twitch, vous, depuis longtemps. Vous y avez d'ailleurs 10 fois moins d'abonnés que sur Twitter, d'après ce que j'ai vu. Tout le monde ne peut pas être Gotaga ou Zerator. Vous avez créé votre propre chaîne en fin d'année dernière et vous avez lancé une initiative que moi, je trouve intéressante. La commu fait sa loi. Quelle est l'idée ?
L'idée est tout simplement d'échanger sur la fabrique de la loi avec les joueurs. Ce que je me suis rendu compte lorsque je suis devenu député, c'est la difficulté de comprendre comment on construit un texte de loi et en même temps les attentes de nos concitoyens. Il y a un fossé aujourd'hui qui est énorme entre les personnes qui font de la politique et nos concitoyens. Et ce fossé, il faut le réduire. Il faut que toute cette tension qu'il y a, cette difficulté qu'on trouve aujourd'hui dans notre République, dans notre démocratie, soit réduite. Et ça se passe par une meilleure explication du fonctionnement de la création d'un texte de loi. Et donc, l'objectif, c'est de dire, voilà, vous venez, je vous présente d'abord le sujet, je vous explique de quoi on parle, je vous explique un peu les tenants et aboutissants, et après, vous me faites des propositions d'amendements. Bien entendu, c'est pas aux citoyens de faire des amendements, les citoyens élisent des représentants, c'est le rôle du député, c'est à moi après de prendre les propositions qui me sont faites et de dire, voilà, sur ce sujet-là, je le partage, je suis prêt à le pousser pour l'amener dans l'hémicycle, et cette proposition-là, c'est pas du tout dans la façon dont je conçois les choses. Donc, par contre, je n'ai pas donné suite. Et là, ça permet vraiment de rapprocher nos concitoyens, dans un premier temps, de la construction des textes de loi et dans un second temps, d'expliquer comment fonctionnent nos institutions.
L'opération a démarré. Quels sont les premiers tours ?
C'est la première fois et c'était plutôt positif. Maintenant, ce n'est pas fini puisque on a déjà eu donc 4 propositions d'amendements qui sont sorties. Maintenant, il va falloir que je les amène et en commission et ensuite dans l'hémicycle. Et bien entendu, il y aura un retour, c'est-à-dire que j'expliquerai, je montrerai comment j'ai présenté les amendements, quelles ont été les réponses qui me sont faites et les différentes possibilités, puisque un amendement, je rappelle qu'on peut aussi le retirer, qu'on n'est pas obligé de l'amener jusqu'au vote. Donc, il y a toute cette partie pédagogique du fonctionnement de nos institutions qui me semble extrêmement importante.
C'est vrai que le chemin qui mène à la loi peut être assez long. Hein. Ça peut ressembler presque à un jeu de donjons et dragons, tellement il y a des, on va dire, des choses trappes ou en tout cas des paliers à franchir pour arriver jusqu'au vote des amendements.
C'est vrai, c'est vrai. Mais c'est plus facile avec Donjons et Dragons parce qu'il y a toujours des astuces sur Internet. Pour la loi, c'est plus compliqué.
Votre projet porte sur quoi, ces amendements ?
Les amendements, ils sont sur le prochain PJL que je qualifierais d'entre guillemets audiovisuel, qui est donc la fusion d'un côté du CSA et d'autre côté de la Hadopi pour la création de l'ARCOM, qui sera une entité plus grande qui vise à récupérer toutes les compétences de ces deux entités. Après, nous, on a surtout travaillé sur l'article 1, et sur la partie réponse graduée de la Hadopi. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un piratage en pair à pair, peer-to-peer en anglais, il y a aujourd'hui des réponses graduées, c'est-à-dire que dans un premier temps, vous recevez des emails, puis des courriers, puis après un passage au tribunal. Donc, on a réfléchi sur est-ce que cette réponse graduée répondait aux objectifs et est-ce que cette réponse graduée était toujours en adéquation avec les usages des pirates.
La communauté Twitch regarde parfois d'un œil suspicieux l'arrivée de politiques sur la plateforme. Elle n'est pas toujours très tendre, on va dire. Il faut dire que l'image d'une grande partie de la classe politique à du jeu vidéo pourrait être qualifiée de rétrograde. Le politique a sa place sur Twitch ?
Je partage pas intégralement votre opinion. La communauté Twitch ne partage pas les personnes qui veulent utiliser Twitch pour vendre leur soupe, si je peux me permettre d'utiliser ce terme-là.
Moi, j'ai une petite faim.
Et si on se faisait une soupe à l'oignon, comme au bon vieux temps ?
Je rajoute du fromage râpé, j'adore ça.
Oh là là, que c'est bon !
Par contre, la communauté Twitch est une communauté qui est curieuse. C'est-à-dire que si vous arrivez avec un profil qui comprend Twitch et en utilisant les outils et les habitudes de Twitch, il n'y a à mon avis pas de problème. Il suffit de regarder Samuel Etienne qui, à la base, n'est pas un gamer. Ça s'est très bien passé. Par contre, si vous arrivez en disant « je vais faire de la télévision sur Twitch et je vais vous expliquer comment ça se passe », ça arrive sur ce qui s'est pu se passer à d'autres moments où le chat est plutôt désobligeant. D'ailleurs, ce qu'on peut regretter.
C'est-à-dire qu'il faut connaître les codes, en fait, les respecter.
Il faut surtout être accepté par la communauté et ça se passe bien entendu par la maîtrise des codes et je crois la légitimité à pouvoir être présent sur cette plateforme. Encore une fois, le jouer aux jeux vidéo n'est pas la légitimité pour cette plateforme-là. Avoir eu des propos opposés aux jeux vidéo ou avoir une façon de présenter les choses est parfois un frein à la présence sur Twitch.
Est-ce que vous pensez que dans le cadre de la prochaine campagne présidentielle, on pourrait voir se multiplier les opérations de communication à la destination de cette communauté ?
Ce que je peux dire, c'est que les médias déjà utilisés lors de la campagne précédente seront eux aussi encore massivement utilisés. Néanmoins, on remarque que les réseaux sociaux, dans leur globalité, sont de plus en plus utilisés pour essayer de toucher une partie de l'électorat qui ne va plus sur les médias traditionnels. Et que donc, forcément, l'ensemble des partis politiques vont essayer de toucher ces médias-là. Il suffit de regarder ce qui se passe aux États-Unis. On voit bien qu'avec Trump, ça a été une vraie stratégie de toucher les électeurs au travers des réseaux sociaux. Voilà, c'est pas nouveau. Souvent, ce qui se passe dans un premier temps au niveau des États-Unis arrive en Europe. Ben, ça sera le cas pour l'élection de 2022.
En espérant que ce soit un peu plus propre qu'avec Donald Trump. Hein.
Vous savez, là-dessus, on verra en 2022, mais on remarque qu'il y a une vraie volonté quand on fait de la politique, contrairement à ce qui a pu être le cas par le passé. Avant, il y avait une approche politique plutôt de faire des propositions pour avoir des électeurs. Il y a malheureusement maintenant des politiques qui ont une stratégie de destruction de l'opposant. C'est-à-dire qu'ils ne font pas de propositions, ils font de la critique systématique des actions des opposants en s'appuyant sur les réseaux sociaux. Il y a un vrai sujet. Et d'ailleurs, ça va nous amener, nous, les politiques, à réfléchir sur le rôle des réseaux sociaux ou la place des réseaux sociaux dans notre démocratie pour éviter, par exemple, des affaires telles que Cambridge Analytica. Mais là, on sort un peu du cadre de nos débats.
Isabelle Lesniak, je reviens vers vous pour terminer. Twitch s'est ouvert à d'autres centres d'intérêt comme la musique, le sport, des discussions sur la vie réelle. Pour autant, le jeu vidéo en direct reste le cœur de cible de la plateforme. Il va le rester, Isabelle ?
Alors, pour le moment, donc, on estime que Twitch a 70% du marché des parties de jeux vidéo diffusées en live. Donc, c'est bien plus que YouTube et Facebook. En fait, ça va rester. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont quelquefois les gamers qui se diversifient eux-mêmes. Alors, il y a eu un exemple qui m'a vraiment très intéressée. Un jeune streamer qui s'appelle Rivenzy, qui était très connu pour le gaming. En fait, c'est un gamer qui avait une licence d'histoire et une distance d'histoire de l'art et il est passionné d'histoire et donc il a ses émissions et sa communauté de gaming, mais tous les mercredis soirs il fait aussi une émission historique où il parle de Pocahontas, du Troisième Reich, des Vikings, et donc c'est par le biais d'un streamer qui était à l'origine gamer que Twitch va finalement diffuser d'autres contenus. Donc c'est quand même assez intéressant et ça montre encore l'importance de la communauté historique des gamers sur la plateforme.
Merci Isabelle Lesniak, journaliste aux Échos Weekend, et merci Denis Masseglia, député du Maine-et-Loire et membre de la communauté Twitch. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver la story sur les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.